Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par ce moment de louange. Je suis sûr que le Seigneur nous a fait du bien. Que son nom soit glorifié. Avant toute chose, prions. Oh Jésus, oui. Seigneur, ce moment, c'est ton moment. C'est le moment où nous allons ouvrir ta parole. Je te demande, Seigneur, que l'onction de ton esprit repose sur cette parole. Que tout ce qui se dira sera conduit par l'onction de ton esprit. Je remets ce moment, Seigneur, entre tes mains. Que chacun ici soit béni. Que chacun des cœurs soit ouvert et reparte avec ce qu'il est venu chercher. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci pour ce privilège que tu nous donnes et que tu nous fais de pouvoir ouvrir ta parole. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Le thème de ce matin va nous parler d'une histoire de cœur. En fait, cela va très certainement suivre avec ce que Jean-Luc, le pourquoi il s'est levé. Je pense que c'est dans la continuité. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut et il sait où il veut nous conduire et ce qu'il veut nous donner, ce que nous avons besoin de savoir. Le titre, le thème de mon message sera « Avoir un cœur bien disposé ». Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Mais d'abord, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et nous lirons les versets de 1 à 18. Je lis dans la seconde 21 et le titre du chapitre s'identifie par le cœur humain. Verset 1er nous dit « Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem pour trouver Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» En effet, Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu », n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien profité sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humain. Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui en sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ?» Il répondit « Toute plante qui n'a pas été planté par mon père sera déraciné. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Comprenez-vous pas encore ce que c'est tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis évacué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Amen. Dans ce texte, nous parlons de la tradition juive. Alors, pour bien comprendre la tradition juive, il faudrait aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et au verset 1 à 23, mais vous le ferez à la maison parce que là n'est pas mon thème de parler de la tradition juive. Et Jésus n'a rien contre la tradition juive. Il ne la remet pas en question. Ce qu'il va remettre en question, c'est ce que les pharisiens en font. Il va remettre en question l'attitude des pharisiens et de la disposition de leur cœur. Parce que leur cœur, ils vont se servir de la tradition pour se servir leurs propres intérêts. Leur cœur n'est pas disposé et tourné forcément vers la gloire de Dieu et vers la volonté de Dieu. D'où la nécessité d'avoir un cœur bien disposé. Et c'est pour ça que Jésus dira, mais c'est du cœur. C'est du cœur que toutes choses viennent. Toute parole que vous dites vient du cœur. Sachez une chose, c'est que dans Matthieu, le mot cœur est cité plus de 90 fois. Enfin, dans la Bible plutôt. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament confondu, le mot cœur est cité 90 fois. C'est donc qu'il a de l'importance. Et l'évangile de Matthieu parle beaucoup du cœur. Jésus, d'ailleurs, se décrit lui-même comme le modèle, faisant référence au cœur. Il dira dans le chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes courbés sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Pourquoi donc le cœur est-il si important au point que Jésus se décrive lui-même de cette manière? Doux et humble de cœur. Parce qu'un cœur doux et humble ne cherche pas son propre intérêt. Un cœur pur et humble est aussi essentiel pour connaître et comprendre la volonté ainsi que le plan de Dieu. D'ailleurs, il nous sera dit dans le chapitre 5, « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Et dans un autre chapitre, au chapitre 12 et au verset 34, il nous rappelle, oups, je l'attrape. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et bien sûr, nous venons de le lire, chapitre 15 et verset 19, c'est de la bouche que le cœur parle. J'aurais pu commencer par la chose suivante. Avoir un cœur disposé, oui, mais pourquoi? Pourquoi avoir un cœur disposé? Parce qu'il est essentiel d'avoir un cœur disposé pour bien garder son cœur. La Bible nous enseigne bien de garder son cœur, mais pour le garder, il faut avoir un cœur disposé. Un cœur disposé à quoi, vous allez me dire? Disposé à aimer Dieu sans retour. Aimer Dieu pour ce qu'il est. Comment aimons-nous Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous aimons Dieu comme quand on est malade, on prend un médicament et puis ça se passe? Aimons-nous Dieu simplement pour qu'il réponde à nos envies, à nos ambitions? Quelles que soient les ambitions, vous approchez de Dieu, oh, tiens, j'aimerais bien telle ou telle chose, oh, je vais prier. Oui, mais est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu? Comment aimons-nous Dieu? Aimons-nous Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. La Bible nous dit que Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas nos circonstances, ce n'est pas les situations, nos détresses qui vont changer quoi que ce soit à l'aspect de Dieu. Non, non, non. Dieu ne change pas. Il reste le même. Nous avons un exemple dans le livre de Job. Job était un homme qui avait la crainte de Dieu. Il avait entendu parler de lui. Il ne le connaissait pas, mais il avait entendu parler de lui. Et il avait cette crainte. Mais un jour, Job a tout perdu. Dieu permit. Dieu permit. Ne me demandez pas pourquoi. Dieu permit que Job perde tout. Au point même le plus tragique, c'est que même sa femme lui dira, il était arrivé à un tel niveau, tellement bas, que même sa femme lui dira, mais alors, maudit Dieu et meurt. Et Job, dans son attitude, va dire la chose suivante. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job avait un cœur disposé, malgré la situation dans laquelle il se trouvait, malgré la non-complaisance, je pourrais dire, de tous ses amis qui l'entouraient. Il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Paul, dans la situation où il se trouvait, avait une écharde et le rendait malade. Il a intercédé, il a prié pour que Dieu le délivre. Mais qu'a dit Dieu ? Dieu a dit, ma grâce te suffit. Comment et pourquoi aimons-nous Dieu ? Quelle est l'importance de bien garder son cœur ? Garder son cœur, c'est pour suivre et rester sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Quelles que soient les incompréhensions, nous ne sommes pas appelés à toujours tout comprendre, mais nous sommes appelés à garder notre cœur et avoir un cœur disposé pour rester en connexion avec Jésus et pour qu'il règne à l'intérieur de notre cœur. Parce que l'importance se situera dans notre cœur. Si on nous enlève le cœur, on ne vit plus. C'est le cœur qui nous fait vivre. Si le cœur s'arrête de battre, on n'est plus rien. D'où l'importance qu'il batte, oui, mais qu'il batte de bons battements, c'est-à-dire de ceux de l'Esprit de Christ en nous. C'est ce qui fait dire à Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul avait un cœur bien disposé. Et il savait garder son cœur et c'est pour ça que Dieu a pu l'utiliser. Alors c'est vrai que cela contraste beaucoup avec le monde d'aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, à notre époque, confirme bien ce que Paul disait à Timothée. Nous voyons que l'être humain est devenu de plus en plus égoïste, pensant davantage à ce que les autres peuvent faire pour lui. Nous vivons dans un monde de profit et d'intérêt. Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul disait au chapitre 3, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Soyons conscients, soyons réveillé par l'enseignement de la parole de Dieu. Et plus loin au chapitre 4 et au verset 3, Paul dira, ou ira jusqu'à dire, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils préféreront entendre des choses agréables, des choses qui ne vont pas leur froisser les oreilles, mais qui leur feront simplement plaisir dans le cœur comme cela. Et Jude dira au verset 16, « Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours mais flatte les gens par intérêt. Combien il est important aujourd'hui de préserver notre cœur et d'être attentif à la volonté de Dieu. Dans son livre « Le Petit Prince », Antoine de Saint-Exupéry disait la chose suivante. « Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. En fait, le cœur nous révèle des choses que l'apparence ne nous montre pas. D'où la nécessité de bien garder son cœur. » Vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile. Avec certaines situations dans lesquelles nous traversons, avec ci, avec ça. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si je me mettais à vous raconter ma vie, vous comprendrez de quoi je parle. Parce que par là où je suis passé, je suis tombé dans le plus profond. J'ai failli mourir plusieurs fois. Mais Dieu a toujours été là. Dieu m'a toujours gardé. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un cœur reconnaissant et parfois de jeter un regard derrière, de là où nous venons, de là où Dieu nous a tirés. Rappelle-toi d'où Dieu t'a tiré. Le chemin parcouru, quel qu'il soit, n'est fait que pour nous élever, nous rapprocher de celui qui nous aime par-dessus tout et au-delà de tout, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il est Dieu, il est notre Créateur et il nous aime d'un amour infini, d'un amour que l'on ne peut exprimer. Souvent des gens diront, mais je ne comprends pas pourquoi tu aimes Dieu. Et il y a ce petit cœur qui dira, oui, je ne sais pourquoi, mais c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur que ça se passe. Ne me demandez pas d'expliquer par A plus B pourquoi j'aime Dieu. C'est dans mon cœur. Il a fait tellement de choses. J'étais mort à la vie. On m'a abandonné. J'étais dans un trou. Je devais mourir. Et je suis toujours vivant par la grâce de Dieu. Parce que c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un un jour l'a dit, et je me plais à le dire, c'est que le hasard, c'est le tremplin de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Alors, avoir un cœur pour Dieu, c'est parce qu'il y a une bénédiction aussi à bien disposer son cœur. Dieu se plaît à bénir ceux qui ont le cœur bien disposé. Ceux qui savent garder leur cœur. Alors vous allez me dire, oui, mais comment avoir ce cœur bien disposé pour Dieu? C'est une question que je me suis posée. Et nous allons voir en 5 points comment, au travers de David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Il nous a dit, dans les Actes des Apôtres, Paul reprendra ce passage qui nous est dit dans le premier livre de Samuel au chapitre 13. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Il n'est pas écrit « ma volonté », mais il est écrit « toutes mes volontés ». C'est un point à souligner qui a son importance. Alors, David n'était qu'un simple berger. Il a su toucher le cœur de Dieu par son caractère, si bien que parmi d'autres personnes plus importantes, Dieu l'a choisi pour être roi. Et l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis donc ta corne et va. » Je t'enverrai vers chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour être roi. On peut lire ça dans le premier livre de Samuel au chapitre 16. Pourtant, David, à la vue des hommes, n'avait rien de roi. Il était berger, dernier né d'une famille, qui plus est le plus jeune donc, et même son propre père et Samuel qui devaient l'oindre, n'avaient pas pensé à lui, ne l'avaient même pas remarqué. Oui, mais voilà, Dieu ne regarde pas à ce que les hommes regardent, mais il va regarder au plus profond de la personnalité. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie puissamment, alors cherchons d'abord à avoir un cœur qui plaît à Dieu. Et si nous regardons au caractère de David, alors nous allons pouvoir voir ce qui a touché le cœur du Père et l'amener à choisir David pour l'utiliser. Le premier point, c'est que David avait un cœur reconnaissant. On peut trouver ça dans le psaume 103 et au verset 2, où il dira « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La première chose que nous connaissons tous de David, c'est qu'il avait un cœur d'adorateur. Il ne cessait de louer Dieu, de lui rendre grâce pour ses bienfaits. Et Dieu prend plaisir à avoir une communion avec ses enfants. La louange et l'adoration touchent particulièrement le cœur de Dieu. Dieu a vu que David n'était pas un homme ingrat, mais qu'il était toujours reconnaissant pour toutes les grâces que Dieu lui faisait. Le deuxième point, c'est que David avait un cœur soumis et patient. David était loin pour régner, mais le temps de Dieu n'était pas encore venu. Dieu l'a même placé et utilisé au service du roi Saül, lorsqu'il jouait de la harpe pour faire fuir le mauvais esprit de Saül. Dieu l'a utilisé aussi à de nombreuses occasions. Mais David a eu de nombreuses occasions aussi pour entrer dans son ministère, en tuant Saül, par exemple. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait pourquoi ? Parce qu'il est resté soumis à l'autorité de celui qui venait de Dieu. Parce que quelle que soit la situation de Saül, c'est Dieu au départ qui l'avait appelé. Et donc David respectait cet appel et il ne le touchera pas. Il a attendu le temps choisi de Dieu. Le troisième point, c'est que David avait un cœur humble. David savait à quoi il était appelé. Il savait que ses propres frères lui seraient un jour soumis à son service. Pourtant, alors que ses frères étaient au combat, David s'est rendu sur le champ de bataille à la demande de son père afin de servir ses frères en leur apportant des vivres. Il aurait pu se rebeller, s'enorgueillir et dire bah, « Moi, je suis appelé à être roi. Hey, pour qui vous me prenez là ? Je ne vais pas me rabaisser à servir mes frères. » Non, non. David a su rester humble. Comme il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 5 et verset 5, où il nous est appelé de se revêtir de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le quatrième point, c'est que David avait un cœur zélé. David, voyant Goliath blasphémant contre l'Éternel, s'est levé contre lui. Il n'a pas laissé le géant dont le monde avait peur se moquer de Dieu. Comme David, ne laissons pas les géants que sont nos diverses situations que nous rencontrons se moquer de Dieu au travers de notre vie ou de celle des autres. Car face à ces puissances, nous avons une autorité. Il nous a été donné une autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et nous devons garder notre cœur dans cette autorité pour faire face à tous les géants de notre vie. Et le cinquième point, c'est que David avait un cœur plein de foi. David avait la foi en Dieu. Il savait qu'il ne l'abandonnerait pas lorsqu'il se dresserait contre Goliath. D'ailleurs, dans la première lettre de Samuel, au chapitre 17 et au verset 47, il dira « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous le livre entre nos mains. » Ce verset est proche de notre verset qui nous rappelle que ce n'est pas par nos propres efforts que Dieu agira, mais que c'est par son esprit, comme il est écrit dans Zacharie au chapitre 4 et au verset 6. On lira ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. Et si David n'a pas hésité à se lever pour combattre, bien qu'il fût encore tout jeune pour être dans l'armée, contrairement à ses frères, c'est qu'il croyait en la toute-puissance de Dieu et à sa supériorité face à Satan lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Voilà pourquoi David fut choisi par Dieu à être roi d'Israël, parce qu'il avait un cœur disposé, il avait un cœur reconnaissant, il avait un cœur soumis et patient, humble, zélé, courageux et plein de foi. Le nom de Dieu était au-dessus de tout nom. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons l'autorité et la puissance par le nom de Jésus-Christ qui a été élevé au-dessus de tout nom. N'oublions jamais, pour que nous soyons victorieux, il a été jusqu'à la croix et il a cloué à la croix. Et il a dit, tout est accompli au jour d'aujourd'hui. Il nous a rendus plus que vainqueurs par son sang qu'il a versé, par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, dans lequel il a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous donne une puissance. Et les choses que je fais, vous ferez exactement les mêmes et vous en ferez même de plus grandes. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas ce que nous sommes. Quel que soit ce que nous sommes, ce n'est pas notre intellect, mais c'est seulement la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de Jésus-Christ dans notre vie qui fera la différence. Si nous savons garder notre cœur, si nous savons avoir un cœur disposé, alors nous verrons de grandes choses, alors nous verrons la gloire de Dieu, alors il établira son règne. Et Wavrin verra aussi la gloire de Dieu. Si nous savons être à la place où Dieu veut que nous soyons, si nous savons faire la volonté de Dieu, mais pour cela, il faut avoir un cœur disposé. Il faut savoir garder son cœur, savoir aussi où l'on met les pieds. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ta propre vie? Quel chemin tu veux emprunter? N'oublions jamais que Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure. Il ne regarde pas à notre charisme, à notre physique ou à nos talents. Mais il regarde à notre cœur, qui est la source de nos désirs et de nos motivations. Dieu regarde à notre cœur, comme il l'a dit au prophète. Dieu recherche avant tout un cœur qui lui soit reconnaissant, pur, agréable. N'oublions pas que le cœur est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de nos ressentis, notre volonté, nos pensées, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le cœur est le siège de toutes ces choses. Et il y a un rapport entre le cœur physique et le cœur du croyant. C'est que le cœur physique est situé à peu près au centre de l'être humain, légèrement sur la gauche. On va faire un cours. C'est pas le but. Mais le cœur spirituel du croyant devrait être localisé au centre de nos pensées, nos paroles et nos actions. Dieu cherche un cœur pour accomplir toute sa volonté. Pas simplement sa volonté, mais toute sa volonté. Il ne veut pas qu'une partie de toi-même, mais il te veut tout entier, corps, âme et esprit. Ce matin, où est ton cœur? Où est ton cœur ce matin? Le Proverbe, chapitre 4, dira: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est de ton cœur que dépendra ton bonheur, à condition qu'il soit au bon endroit. Si ton cœur est gardé pour Christ, nos affections seront concentrées sur sa personne, les issues et les résultats de notre vie seront à sa gloire. À l'inverse, si le cœur spirituel du croyant n'est pas au bon endroit, il sera sujet au découragement s'il n'apprend pas à remettre ses inquiétudes, quelles qu'elles soient, dans les mains du Seigneur. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 6, nous rappellera la chose suivante: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ce n'est pas en se plaignant ou en se lamentant, mais c'est avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce que le verset 7 nous donne la réponse. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Dès que tu commences à rendre grâce à Dieu, dès que tu commences à dire merci au Seigneur, il va y avoir des choses que tu ne peux comprendre qui vont se passer dans ton cœur. Il va y avoir des choses qui vont te relever, qui vont t'animer d'un nouvel esprit, qui vont te renouveler. Tout cela parce que subitement, par tes actions de grâce, tu glorifies Dieu. Parce que par tes actions de grâce, tu lui rends l'hommage qui lui est dû. Parce que d'un seul coup, tu deviens reconnaissant. Alors le Saint-Esprit va agir et va faire bouger ton cœur. Le secret, oui, il est dans la louange, l'adoration et la reconnaissance. La reconnaissance à ce Dieu merveilleux qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie afin que nous soyons heureux. Que faisons-nous de ce qu'il nous a donné? Que faisons-nous de ce qu'il nous a donné? Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Mais parfois, le cœur de l'homme est tellement tortueux qu'il préfère aller par son propre chemin, qu'il ne veut que personne règne dans sa propre vie, qu'il veut simplement faire sa propre volonté, aller par ses propres pas. Et puis d'un seul coup, c'est la catastrophe. Parce qu'il n'a pas su glorifier celui qui l'a créé. Toute création a un créateur. Pourquoi pour l'homme ça serait différent? Toute création a un créateur. Et nous avons un créateur. Mais ce créateur, ce n'est pas n'importe quel créateur. C'est celui qui nous a créés avec un infini amour, avec une éternelle reconnaissance sur nous. Il a beaucoup d'espoir sur nous, sur notre propre vie. Il a beaucoup d'espoir. Il a tout misé sur nous. C'est pour ça qu'il nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé ce parchemin aussi, qui est sa parole, par lequel nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. D'où nous venons, ce que nous faisons, où nous allons, ce que nous sommes, tout se trouve dans ce livre. C'est le livre le plus précieux Un jour, quelqu'un qui était sur une île déserte, on lui a dit, qu'est-ce que tu prendrais pour te tenir compagnie? Et il a dit, donnez-moi simplement la Bible. Donnez-moi simplement la Bible, ça me sera suffisant. Parce que même quand on est seul, la Bible est là pour nous encourager et nous réconforter si nous-mêmes, nous avons un cœur bien disposé, si nous-mêmes, nous savons garder notre cœur. Et dans l'épître de Jean, dans sa première lettre, au chapitre 3 et au verset 20, il nous dira, de toute façon, si ton cœur te condamne, sache une chose, c'est que Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses, et il peut toutes choses. Une connaissance intellectuelle des Écritures ne suffit pas. C'est la connaissance du cœur qui nous enrichit et dont les fruits sont manifestés dans notre vie pratique. Ne nous fions pas aux apparences. Elles peuvent tromper nos frères, ceux qui nous entourent. Elles peuvent même nous illusionner nous-mêmes, ces apparences. Mais elles ne tromperont jamais celui qui regarde au cœur. Elle ne trompera jamais Dieu. Soyons donc des hommes et des femmes comme David. Ayons un cœur bien disposé pour offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de voir Dieu se glorifier dans notre vie, afin de voir la main de Dieu nous diriger dans les chemins qu'il a déjà tout tracé pour nous, parce qu'il veut notre bonheur, et dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, oui, ce matin, élevons notre voix, et disons à Dieu, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Vous connaissez ce chant? Il n'est pas de moi, c'est de Mad Marvan. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Est-on capable, pas simplement de dire ces paroles, mais de les laisser nous transpercer corps et âme. Les mots, bien souvent, n'effleurent que nos lèvres. Mais ce que les mots ont besoin, c'est qu'elles rentrent dans la profondeur de nous-mêmes, dans la profondeur de ce que nous sommes, que les mots pénètrent notre cœur, notre âme, jusqu'à transpercer, à nous élever devant le trône de Dieu, pour aimer celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie pour nous, celui pour qui notre vie a du prix. Ne l'oublions jamais. Notre vie a du prix. Il l'a payé de sa vie. Il est venu pour ça, bien sûr. Il connaissait sa mission, bien sûr, mais il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Dans le jardin de Gethsémané, le combat fut grand. Le combat fut terrible. Dans le jardin de Gethsémané, lorsque Jésus a prié, les disciples étaient endormis. Ils n'étaient déjà plus là. Mais lui, il était là. La douleur était si forte, la douleur était si intense que des grumeaux de sang ont coulé de son front. C'est dire combien le combat spirituel devait être important. Et c'est pas simplement à la croix que Jésus-Christ est mort. C'est parce que à Gethsémané, Jésus-Christ a su dire, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et c'est parce que Jésus a accepter que toute la volonté de Dieu soit faite, qu'il a pu aller jusqu'à la croix et qu'il a pu subir et accepter le châtiment. Ne l'oublions jamais. Mais repassons-le dans notre cœur lorsque l'on commence à trébucher, lorsque l'on commence un petit peu à gémir, ou lorsque l'on commence par nos situations à perdre le moral, ou même voire à perdre la foi. N'oublions jamais que lui, quand on a les regards sur lui, c'est lui qui va nous donner la foi, c'est lui qui va nous revitaliser, c'est lui qui va nous propulser de l'avant. Parce que comme il l'a dit, je ne vous laisserai jamais orphelins, mais je serai chaque instant de chaque jour avec vous. Ne crains pas, tu auras des tribulations dans le monde, ça ne va pas être facile. Mais j'ai vaincu le monde, et je suis victorieux. Et cette victoire, il nous l'a donnée. Que son nom soit glorifié. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cet amour dans lequel tu nous aimes, cette profondeur de cet amour. Je te rends grâce parce que c'est toi qui gardes nos cœurs, plus que toute autre chose. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes fragiles, c'est toi, Seigneur, qui viens auprès de nous et qui nous porte. Parce que tes chemins sont tracés, parce que tu veux notre bien. Alors ce matin, je veux te rendre grâce et je veux prier. Je veux prier pour que chacun d'entre nous puisse trouver dans son cœur cette puissance, cet amour divin, ce baume d'amour. Oui, que chacun dans son cœur puisse dire oui. Jésus, je te donne tout. Que chacun d'entre nous puisse dire oui, glorifie-toi dans ma vie. Voilà, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes manquements, je reconnais ma fragilité, je reconnais mes faiblesses, je sais que je ne suis pas tout le temps au bon endroit, je sais que je ne te glorifie pas comme je devrais, mais toi tu es un Dieu miséricordieux et compassion, et dans ta bienveillance, tu sais ce que je suis. Tu sais ce que je suis et qui je suis, mieux que moi-même. Alors oui, viens remplir mon cœur. Viens remplir mon cœur pour que je sois l'individu que je veux que tu veux que je sois et que tu puisses te glorifier dans ma vie. Oui, Seigneur, telle est ma prière pour cette assemblée ce matin. Que tu puisses continuer à bénir chacune des personnes qui sont là. Quelle que soit la situation, aussi douloureuse qu'elle peut être, aussi compliquée qu'elle peut être, toi, Seigneur, rien n'est compliqué. Parce que d'un seul geste, d'un seul mot, tu dis et la chose arrive et elle s'accomplit. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci parce que tu es celui qui nous garde et tu es celui qui gardera chacun des cœurs qui sont ici présents. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.